13h-14h, Raphaël Duchemin sur Europe 1.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez à l'instant sur Europe 1. Ma mission, vous la connaissez tous les jours, vous montrer qu'il y a autour de nous des gens qui innovent, qui créent, qui font briller les couleurs tricolores. Aujourd'hui, gros plan sur le running. Le salon ouvre ses portes à Paris dès demain et quand il s'agit de courir, eh bien les Français ont des idées qu'on va découvrir ensemble aujourd'hui. Elle est née en 1971 avec un tout nouveau concept, les automobilistes la connaissent forcément. Point S est aujourd'hui l'entreprise qui va bien, merci. Et puis vous avez peut-être un projet de construction et vous hésitez, pourquoi ne pas aller voir Archibien ? Cette start-up s'occupe de tout à votre place. C'est la solution, c'est ça la France qui bouge et c'est sur Europe 1.
Europe 1.
Et vous allez voir qu'il n'y a pas que les baskets qui sont utiles quand on parle de courir et que le secteur se développe chez nous en France avec des tas d'idées auxquelles nous n'aurions pas pensé pour les quelques 12 millions quand même de Français qui pratiquent le running de manière occasionnelle dans l'Hexagone. Pour accueillir nos invités, comme chaque jour, elle est là, elle est à mes côtés, c'est Elisabeth Asseyac, bonjour.
Salut Raphaël, bonjour à tous.
Et notre coach est là aussi, c'est Marie-Éloi, fondatrice du réseau Bouge ta boîte, bonjour Marie.
Bonjour à tous.
Pour aller courir, vous serez d'accord avec moi, même si je ne pratique pas, c'est vrai, n'est-ce pas Thomas ? Il y a des indispensables et pour ne pas être des pieds à la tête sponsorisés par des marques américaines, il faut évidemment ouvrir l'œil et le bon. Alors on a cherché et on a trouvé. Bonjour Maxime Marchal.
Bonjour Raphaël, bonjour à tous.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le fondateur de Coureurs du Dimanche, un peu comme moi d'ailleurs. Vous avez avec Florian et Mathieu créé votre marque de t-shirt de running. Racontez-moi, comment est née l'idée ? Vous êtes, je suppose, sportifs tous les trois ?
Exactement. Alors nous, on s'est rencontrés en fait sur les bancs d'école. On était tous les trois passionnés de sport. En fait, c'est ça qui nous liait. Et puis voilà, en fait, on a chacun eu une première expérience professionnelle dans des domaines respectifs. Et au bout de 4-5 ans, on a eu envie de créer quelque chose. Mais on voulait à tout prix un projet qui, nous passionne. Et deux, qui avait du sens. Et ce qui nous reliait, c'était le sport, le running. Et en fait, c'est né d'un constat tout bête. On courait et on s'est dit, mais ce qu'on porte de la tête aux pieds.
Vous êtes regardés les uns
voilà,
les autres.
Exactement. On a dit, tout vient de l'autre bout du monde. Et on savait pas trop par qui ça avait été fabriqué, ni l'impact que ça avait eu.
Pas forcément très éthique.
Exactement. Et on s'est dit, mais pourquoi pas faire ça ici en France avec un équipement français. Et c'est là qu'est né notre concept de courir français.
Et alors là, on est en 2014, c'est ça, quand vous commencez cette idée.
En 2014, et on a on est une entreprise lyonnaise à la base, et c'est vrai que c'est un gros bassin textile, la région Rhône-Alpes, et donc on se dit, on va aller taper un petit peu à la porte de tous les fournisseurs, savoir comment, pourquoi il n'y a pas grand-chose, entre guillemets, sur le textile sportif made in France, et là on fait le tour des fournisseurs, et c'est vrai que ça, 9 mois, 10 mois plus tard, on commence à commercialiser les premières pièces sur le site de vente.
Oui, ça commence en 2015, effectivement. Et vous avez réussi le tour de force de tout réaliser en France de A à Z. Le tisseur, je crois, est du côté de Bourgoin-Jallieu.
Exactement, oui.
Les motifs sont aussi imprimés en France. Idem pour la façon, pour la réalisation. Il y a une petite carte sur votre site. On voit bien les endroits où finalement le t-shirt est fabriqué. Si vous ne les connaissez pas, vous pouvez venir regarder europe1.fr en ce moment, parce qu'ils sont avec nous. On a notre démonstratrice Anissa qui va vous les montrer. Et vous avez au départ commencé avec une gamme toute simple qui est tout simplement le bleu, blanc, rouge.
Exactement, on voulait en fait se différencier un peu de ce qui se fait sur le marché, c'est-à-dire on était beaucoup sur des couleurs fluo, etc. Nous on a dit on veut faire sobre, prôner un petit peu aussi, apporter notre élégance à la française comme on dit. Donc on est resté sur les couleurs bleu, blanc, rouge, noir. Et dessus on a aussi décliné donc des messages à l'avant des phrases un petit peu décalées comme « cours toujours tu m'intéresses, attrape-moi si tu peux », etc. pour se différencier un petit peu de ce qui se faisait actuellement sur le marché.
Alors le basique c'était en 2015, depuis ça a évidemment évolué. Vous êtes aussi, puisqu'on parlait d'éthique, positionné sur le marché du recyclable, du vêtement recyclé. Vous fabriquez un t-shirt en plastique, à base de plastique recyclé.
Exactement, ouais, c'était l'étape supplémentaire, si je puis dire. C'est-à-dire, fabriquer en France, c'était un point. Et maintenant, on voulait même aller plus loin avec des matières recyclées. Donc maintenant, c'est juste une étape de fabrication en plus. C'est-à-dire que les bouteilles, c'est un t-shirt égale 12 bouteilles recyclées. Et il y a une étape supplémentaire. Les bouteilles sont compressées, sont réduites à l'état de fibre. Et ils arrivent à en faire un nouveau fil qui servira de base au nouveau tissu.
Que dit notre coach, Marie-Éloi ?
Je crois que je n'étais pas la seule à trouver les produits magnifiques dans le studio.
Magnifique.
Il y a un petit côté aussi slip français avec le côté bleu, blanc, rouge, etc. Enfin, quelque chose que nous, on adore, plus le Made in France, plus ce côté plastique recyclé, parce que j'ai lu sur votre site justement qu'il y avait une bouteille, il lui fallait 400 ans pour disparaître, ouais, et il y en avait 1 million vendus chaque minute, donc c'est juste dingue. Pourquoi vous, petit fabricant français encore, vous arrivez à le faire, à transformer du plastique en textile? Pourquoi les autres ne s'y mettent pas? Est-ce que c'est compliqué? Je crois que vous n'avez même pas fait de levée de fonds non plus. Donc pourquoi vous y arrivez et pas les autres?
Alors nous, c'était vraiment par choix en fait. Il faut savoir que, c'est-à-dire fabriquer un t-shirt plastique entre guillemets en plastique recyclé, c'est on va dire entre 1-30% plus cher uniquement. Donc après, c'est vraiment un choix. Je pense que ça fait partie, nous, des valeurs d'entreprise. Et voilà, tout simplement. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a des prises de conscience, notamment dans le prêt-à-porter et dans le sport. Il y a des choses qui commencent à arriver. Et en tout cas, nous, c'était moteur et c'était vraiment important pour nous de le faire.
Elisabeth, vous avez trouvé d'autres textiles innovants pour ce secteur de la course à pied.
En tout cas, une autre marque française, Nolidieu. Alors, elle est spécialement dédiée aux femmes, parce que vous savez qu'il y a de plus en plus de femmes qui se sont mises à la course à pied. Bon, c'est pas vous ni moi, mais
non,
Marie, bravo. Donc, ce sont des vêtements pratiques pour courir, ils sont confortables. Il y a aussi une technique qui est mise en place pour que justement on puisse courir de manière sans sentir le poids du coton quand on transpire, par exemple. Ou vous avez aussi une autre marque, alors le nom est particulier, ça s'appelle les Poulettes Fitness. C'est une marque à Lyon. Là-bas aussi, tous les vêtements sont fabriqués en France. Et aussi Siren, c'est une marque conçue spécialement par une marathonienne, une marque française, et elle ne savait pas quel genre de vêtements porter tout en ayant de l'allure. Et bien, elle a conçu Siren.
On a trouvé beaucoup en cherchant, évidemment, beaucoup de marques qui étaient soit faites pour les hommes, soit faites pour les femmes. Peu de marques mixtes, finalement, en France. Comment ça se fait?
Alors, je sais pas. Alors après, bon, c'est vrai
vous faites
ça coûte,
les deux.
Voilà.
Faites...
Après, bon, ça nécessite d'avoir donc du coup deux garde-robes. C'est-à-dire au démarrage, c'est peut-être un peu compliqué quand on se lance sur un marché. Mais c'est vrai que nous, ça, tout de suite, ça nous a paru évident tellement parce que déjà, il y avait une féminisation de la pratique du running qui est aujourd'hui, il y a la quasi-égalité, on est quasi à 50-50. Et nous, on le voit même aujourd'hui. Nous, il y a 60% des acheteurs sont des acheteuses, mais elles achètent. Souvent, on va dire, c'est à 50-50, c'est-à-dire qu'elles vont beaucoup acheter. En fait, c'est les femmes qui vont acheter pour leurs compagnons, etc.
C'est malin.
Je voudrais préciser une chose, c'est que vous avez une ambition, et je voudrais qu'on en parle aujourd'hui sur Europe 1, c'est de devenir le fournisseur officiel d'une fédération au JO de 2024. Il faut en parler maintenant, c'est important, et nous, on lance un appel avec vous, parce qu'on adorerait voir vos tenues sur nos sportifs français en 2024.
On l'adorerait aussi, oui. Et c'est vrai que c'est... En fait, aujourd'hui, si on veut que les choses bougent, notamment dans le Made in France, dans le sport, il faut que, je pense que ça passe par les institutions, il faut qu'elles montrent l'exemple. Aujourd'hui, on travaille déjà, par exemple, avec l'État français sur certaines, quand ils vont faire des courses officielles, ils montrent l'exemple également. Par contre, voilà, les institutions, les fédérations doivent montrer l'exemple. On l'a vu, ils ont commencé à le faire dans le rugby avec, en choisissant une marque française.
Oui.
Mais voilà, il faut que à l'athlétisme, vraiment dans toutes les fédérations, ça serait, pour nous, ça nous paraît sensé. Voilà,
et pour nous aussi, évidemment. Donc on va vous soutenir dans cette démarche et on va faire ce qu'on peut pour vous aider. On reste ensemble, on continue à parler running aujourd'hui sur Europe 1.
Il est 13h08.
Europe 1, Raphaël Duchemin.
Et pour nous faire courir, les applis se développent aussi. Nous, on vous propose un coaching à la française. Quand vous chaussez vos baskets, c'est Fréquence Running. A tout de suite.
Nombreux se sont mis à la course à pied sur le tard. On parle running aujourd'hui dans La France Bouge, avec vous, Raphaël Duchemin.
Et tous ceux qui font de la course à pied le savent, il ne suffit pas de chausser des baskets, de se mettre en mouvement pour savoir courir. Il faut savoir respirer, trouver son rythme, bref, ça s'apprend. Bonjour Jean-Baptiste Marcovici.
Bonjour Raphaël, bonjour à tous, bonjour à toutes.
Merci d'être avec nous. Vous avez cofondé Fréquence Running avec Johan et Guillaume. La rencontre, je crois, s'est faite, ça n'est pas un hasard, sur une piste d'athlétisme. C'est ça, on est en 2014 aussi.
Oui, tout à fait. Donc moi, je cours, on est tous les trois des passionnés de course à pied. Donc moi, j'étais en club d'athlétisme et j'ai rencontré Johan également, qui était en club d'athlétisme et qui arrivait sur Paris. Donc on s'est rencontrés sur une piste, donc on était dans le même club et en fait on a très vite sympathisé et on s'est rendu compte tous les deux étant des coureurs depuis vraiment de longues années qu'il n'existait pas de solution optimale pour s'entraîner pour une course. en étant seul.
Qu'est-ce que vous appelez s'entraîner? Alors, quelque chose qui puisse regrouper tous les mouvements à faire, tout...
Alors, en course à pied, en fait, on a des programmes d'entraînement. C'est des séances d'entraînement à réaliser où vous allez avoir des zones, on va dire, d'intensité plus forte et des zones de récupération, ce qu'on appelle le fractionné. Donc, c'est ce qui constitue en fait la base des entraînements running. Et jusqu'à présent, moi, j'ai fait une quinzaine de marathons. J'allais chercher ces programmes d'entraînement sur Internet. Et sauf que ces programmes d'entraînement, en fait, ils sont figés.
Des moments où on accélère et des moments où on est un peu plus dans la course de fond.
Exactement. Et tous ces programmes d'entraînement, en fait, ils sont faits par des très bons entraîneurs, mais ils sont statiques, ils sont figés et ils évoluent pas en fonction des retours, en fait, des coureurs. Et le coureur, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a aussi une vie privée. Donc, il faut qu'il adapte en fait son entraînement à son planning. Et jusqu'à présent, il était obligé finalement de subir le plan d'entraînement. C'était pas le plan d'entraînement qui s'adaptait à lui. C'était à lui de s'adapter au plan d'entraînement.
Donc vous vous êtes dit, on va inverser les choses et on va faire du sur-mesure. C'est...
Exactement.
Ça ?
Et le père de Johan étant entraîneur, donc on avait déjà la base de plan d'entraînement. On s'est dit qu'on allait allier nos compétences. Moi étant ingénieur dans l'informatique depuis plusieurs années, Johan étant designer et un très bon communicant. Et son père étant entraîneur, on s'est dit qu'on allait allier nos compétences pour développer une application mobile pour faciliter l'entraînement à tous les coureurs et toutes les coureuses.
Oui, parce que c'est vrai qu'Elisabeth, il y en a de plus en plus hein, des adeptes du running en...
Alors,
France.
Alors, il y en a énormément. La course à pied, c'est simple, c'est rentré dans les habitudes de beaucoup de personnes. Hein. Ça a un marché qui pèse près de 850 millions d'euros de chiffre d'affaires rien qu'en France. Plus de 9 millions d'adeptes, et on l'a dit tout à l'heure, hein, maintenant les femmes représentent quasiment la moitié. Et évidemment, face à cet engouement, eh bien, le secteur devient stratégique pour les applis, pour les marques et pour tout ce qui est technologique.
Alors l'appli, on la télécharge et ensuite elle marche comment ?
Donc on la télécharge, elle est disponible sur l'Apple Store et le Google Play Store. On va vous poser quelques questions sur votre niveau de pratique de la course à pied, éventuellement des références de chronomètres que vous avez déjà établies sur des courses officielles. On va surtout vous poser des questions sur vos préférences en termes d'entraînement, donc vos contraintes personnelles, combien de fois par semaine vous voulez courir. On va vous demander vos terrains d'entraînement. Est-ce que vous voulez courir plus sur une piste d'athlétisme, en forêt, autour d'un lac? On va vous poser toutes ces questions et on va vous demander votre objectif. Donc vous allez pouvoir choisir un objectif de course du 10 km au marathon en deux clics. Donc nous, dans Fréquence Running, on répertorie toutes les courses en France qui ont lieu tous les ans.
On commence à 2 km aussi ou
C'est 5 km.
Pour les débutants, 5 km.
Il y a une notification pour la motivation aussi.
Ouais, il y a des relances régulièrement la veille de vos séances d'entraînement. On vous encourage, la semaine d'une course par exemple, on vous envoie plein de... Là actuellement, là, c'est le marathon de Paris dimanche.
Oui.
Donc tous les coureurs, ils ont des messages d'encouragement. On leur donne des conseils vraiment bienveillants.
Par exemple, on
va leur dire, si par exemple, ils n'ont pas réalisé toutes les séances d'entraînement du programme, on va leur dire, c'est pas grave, si vous avez réalisé 80%, c'est suffisant, vous allez pouvoir réussir votre course dimanche. On va leur donner des petits conseils sur la manière d'appréhender la course. On va par exemple leur dire qu'un marathon, en fait, il commence au 30e kilomètre. Donc ça va tout de suite dédramatiser le coureur qui prépare le marathon et qui va s'aligner sur la ligne dimanche.
Que dit notre coach, Marie-Éloi ?
Alors moi, comme Anissa, je suis une coureuse de dimanche. Et j'ai une appli qui me dit le temps mis pour ma course et la distance parcourue, etc. Et c'est une appli assez passive. Du coup, j'ai téléchargé votre appli. Et je me suis sentie prise en main. Ça veut dire qu'effectivement, j'ai dû remplir tous les critères, etc.
On va l'inscrire au marathon de Paris pour l'année prochaine.
Et figure-toi que je me suis dit, mais en fait, c'est possible. C'est possible parce qu'on peut faire 10 km, un semi-marathon. Et je me dis, mais pourquoi pas si j'ai une coach ou un coach qui me soutient comme ça, qui me prend en main et surtout qui me donne aussi des conseils. Par exemple, la dernière fois, il m'a dit ne pas oublier vos lunettes de soleil parce qu'il faisait
beau.
Exactement. Et je voulais savoir, je sais que le coach est très présent auprès des coureurs et des coureuses. Est-ce que vous avez pensé mettre en lien aussi les coureurs entre eux pour
communauté.
Qu'ils puissent s'entraider, notamment par exemple pour le marathon de Paris, tous ceux qui participent au marathon, est-ce qu'ils s'entraident ?
Oui, alors on a un espace communautaire dans l'application, en fait c'est un petit onglet où en fait on peut voir en fait tous ces amis qui s'entraînent également. Alors ça peut être pour le même objectif ou d'autres objectifs et on peut voir leur progression et donc du coup échanger avec eux. Donc effectivement, cet espace existe dans l'appli. Après, on est aussi très présent sur des réseaux sociaux parce que nous, on est très proche de nos coureurs. Donc on a un groupe Facebook où tous les coureurs peuvent échanger entre eux et partager leur expérience entre eux d'entraînement tous les jours.
Et ils sont nombreux hein, parce que vous êtes 70 000 coureurs
ouais,
inscrits, c'est ça ?
C'est ça.
Et alors, pourquoi que des Français aujourd'hui, quasiment ?
Alors, l'appli...
Vous avez pensé à la suite ?
Oui, bien sûr, on a pensé à la suite. L'appli, aujourd'hui, elle est dans tous les territoires francophones. Hein. Il n'y a pas que la France. Hein. Oui. On a nos amis belges, suisses, on a l'Afrique du Nord, également le Québec, qui utilisent l'application. Mais effectivement, on a envie de... Comme notre mission chez Fréquence Running, c'est de faciliter l'entraînement à tous les coureurs, on veut s'exporter au-delà de nos frontières. Et donc, l'année prochaine, en 2020, ce sera l'objectif d'aller essayer de conquérir plus de coureurs dans le monde en traduisant l'application.
On reste ensemble et on continue à parler running aujourd'hui sur Europe 1.
Il est 13h19.
Europe 1, Raphaël Duchemin.
Et si on vous récompensait à chaque fois que vous courez, voilà qui va inciter certains à chausser les baskets. C'est Running Heroes. À tout de suite.
Et on retrouve au pas de course Raphaël Duchemin pour le meilleur de la France Bouge. Aujourd'hui, eh ben oui, on vous fait courir sur Europe 1.
Ouais, on se demande souvent après quoi on court dans la vie et si justement il y avait un but quand on met les baskets et qu'on sort transpirer. Bonjour Boris Bourreau.
Bonjour Raphaël.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le cofondateur de Sport Heroes et vous avez débuté en 2014 vous aussi avec Running Heroes. Vous faites de la course à pied comme les deux personnes qui sont déjà avec nous dans le studio. Et vous vous êtes dit, finalement, si on récompensait les gens, c'est un peu ça ?
C'est un peu ça, en fait. C'est parti du principe de la motivation des coureurs, qui est souvent l'élément le plus difficile à garder
pour
pratiquer sur le long terme. Essayer, on a tous essayé, mais le plus difficile, c'est de s'y tenir. Et effectivement, quand on fait des enquêtes et qu'on s'enseigne sur pourquoi est-ce que les gens abandonnent, souvent c'est à un moment je manque de motivation. Et donc on s'est posé la question de est-ce qu'on peut pas trouver des mécaniques stimulantes pour générer de la motivation dans le long terme. Et donc ce qui nous est venu à l'idée, c'est est-ce qu'on pourrait pas récompenser des coureurs qui pratiquent en leur permettant de convertir leurs kilomètres en cadeaux que leur offrent des marques partenaires, ou bien en don pour des associations, qui est aussi une possibilité.
Donc on se connecte à Running Heroes, et à chaque fois qu'on court, on va gagner des points, c'est ça, qui vont correspondre soit à un cadeau, soit à des récompenses avec les marques partenaires. Comment est-ce que vous avez fait pour les démarcher ? Est-ce que ça a été difficile ?
En fait, donc le principe, effectivement, c'est que Running Heroes est compatible avec n'importe quel objet qu'utilisent des gens qui font de la course à pied, donc des montres GPS, des bracelets connectés, ou bien des applications de running. On n'est pas encore compatible avec Fréquence Running, mais on le sera peut-être bientôt.
J'espère.
Et en fait, le principe, effectivement, c'est de comptabiliser, finalement, chacun des kilomètres, chacune des activités, et puis de lancer à des coureurs des challenges régulièrement, qui leur permettent de gagner certaines choses. Est-ce que ça a été facile ou pas de convaincre des marques ? Plus on est nombreux dans nos communautés, plus c'est facile de convaincre des marques partenaires. Donc au début, ça a été très dur. Aujourd'hui, ça l'est moins. On a près de 700 000 coureurs aujourd'hui qui font partie de nos communautés. Donc forcément, ça intéresse des marques qui ont des produits et des services à présenter à ces coureurs. Donc on arrive, nous, à négocier avec ces marques et à leur demander d'offrir certaines choses pour récompenser des pratiquants.
Du coup, vous avez aussi élargi le spectre, hein, puisque vous êtes allé vous positionner sur d'autres sports, justement pour, pareil, inciter les gens à se motiver les uns les autres et à aller pratiquer le sport en question.
Nous, la mission de l'entreprise qu'on a érigée dès le démarrage, c'est inciter le plus grand nombre à faire du sport et
à
plus
développer la pratique sportive.
Voilà, et plus largement à prendre un peu mieux soin de soi.
C'est la carotte qui fait un peu avancer.
Pour certains et à certains moments de sa pratique, ça peut être en tout cas un élément motivant. Après, c'est pas le seul et il faut pas que ça soit le seul, évidemment. Mais si ça peut être un booster, pourquoi pas.
Marie ?
Alors c'est vrai que c'est un modèle qui est gagnant-gagnant pour les marques et pour les coureurs. Moi, je suis moins fan des récompenses matérielles. En revanche, ce qui m'a plu dans ce que vous faites, c'est les dons pour les associations et notamment pour la fondation Alice Milia, que je ne connaissais pas, qui est une athlète du siècle dernier, début du siècle dernier, qui est une des femmes qui a permis l'ouverture des Jeux Olympiques aux femmes, justement. Et j'ai trouvé ça génial parce que c'est pour faciliter la médiatisation des femmes dans le sport. Et comme dans tous les domaines, on est à 14-15% de femmes visibles dès qu'on parle d'économie, de culture, de sport. Qu'est-ce qui vous a poussé vers cet engagement sociétal ?
Bah, nous, on a envie de porter certains sujets et certaines valeurs et de lier aussi nos audiences à ces sujets-là. On a besoin aussi, pour que ça fonctionne, d'avoir un triptyque avec une marque qui s'engage. Donc là, en l'occurrence, l'activation qui est en ce moment autour de la Fondation Alice Mia, il y a une marque féminine qui est le sponsor aussi de cette activation-là. Je ne sais pas si j'ai le droit de la citer,
oui, mais vous y aller.
Qui est Etam, qui s'engage auprès des femmes depuis longtemps. Ce qui nous intéresse, c'est encore une fois, on n'a pas tous les mêmes motivations et on peut avoir besoin de motivations différentes à différents moments de son parcours. Donc parfois ça peut être gagner une paire de chaussures, parfois ça peut être gagner un dossard pour le marathon de New York. Et puis parfois, ça peut être se dire qu'en faisant du sport, je viens en aide à des associations. Et il se trouve que c'est très motivant et que ça génère énormément d'un sentiment d'appartenance et l'envie de se bouger ensemble contre des causes qui nous sont chères. Et nous, en tant qu'entreprise, c'est vrai que ça nous semblait normal, en tant qu'entreprise du 21e siècle, que de choisir aussi certaines causes qui nous semblaient d'actualité et pour lesquelles on avait envie d'apporter notre contribution en étant une entreprise plutôt moderne, jeune, dynamique. Donc les femmes, la médiatisation des femmes dans le sport, c'est un sujet. Le fait de recycler des plastiques et de protéger les océans, c'en est un autre. On a fait pas mal d'activations avec UNICEF pour la protection des enfants et le développement du sport dans des zones de conflit, etc. Voilà, il y a plein de choses et je pense que si on peut faire du sport et le lier à quelque chose de plus grand que soi, bah c'est encore plus beau.
On reste ensemble, on continue à parler running aujourd'hui sur Europe 1.
Il est 13h29.
Europe 1, Raphaël Duchemin.
Avec vous aussi au 39-21 et sur Twitter, hashtag Europe 1, Twitter, oui. C'est la France qui bouge, on vous attend.
Europe 1. Tout l'été, partagez vos expériences de vie avec Ève Roger.
Tous les jours, de 15h à 16h, nous écoutons vos expériences. Mettre gratuitement ses compétences professionnelles au service d'une bonne cause, sur son temps de travail, c'est ce qu'on appelle le pro bono. Nous attendons vos témoignages.
Retrouvez Ève Roger tout à l'heure de 15h à 16h sur Europe 1.
Coureur du dimanche ou coureur chevronné, cette émission est pour vous. Le meilleur de la France bouge se poursuit jusqu'à 14h sur Europe 1 avec Raphaël Duchemin. Nous sommes toujours avec Marie-Éloi, fondatrice du réseau Bouge ta boîte, qui est notre coach aujourd'hui. Elisabeth Assayeg, évidemment, est avec nous. Et nos invités, Maxime Marchal, cofondateur de Coureur du Dimanche, Jean-Baptiste Marcovici, cofondateur de Fréquence Running, et Boris Pourrault, cofondateur de Sport Heroes, qui commercialise notamment Running Heroes, qui était la toute première start-up qui anime donc une communauté de 800 000 coureurs, c'est ça, dont 600 000 en France.
Exactement.
Alors, moi, je voudrais qu'on parle de la suite, parce que si j'ai bien lu, vous disiez que vous aviez un objectif, c'était vous développer davantage à l'international, et vous avez levé des fonds, d'ailleurs, l'année dernière. C'était justement pour ce développement-là, vous en êtes où ?
En fait, nous, quand on a commencé en 2014, on a créé Running Heroes en France. Et en fait, assez vite, on s'est dit, Running Heroes en France, le problème, c'est que c'est limité dans l'univers sportif, le running, et géographiquement, la France. Donc si on veut créer une grande entreprise, il va falloir qu'on pousse un peu ces barrières. Donc on a fait deux choses dès 2015 pour modifier l'ADN de notre entreprise. On s'est dit, on va l'ouvrir à d'autres sports. Donc on a lancé Cycling Heroes dans le vélo et plus récemment Swimming Heroes dans la natation. Et puis on s'est dit tout de suite aussi, il va falloir qu'on regarde si notre entreprise qui a l'air de fonctionner en France est une exception française ou si elle peut être répliquée à l'international. Donc on a ouvert une filiale en Angleterre, à Londres, et puis une filiale en Australie, à Sydney, pour tester notre idée et valider est-ce qu'on a une entreprise de running en France ou est-ce qu'on peut être une entreprise de sport dans le monde entier. Et donc la réponse aujourd'hui est plutôt oui. Après, il y a beaucoup de travail pour en faire une réalité, mais en tout cas, on travaille sur ces sujets.
Alors, on a une question d'Anthony qui a composé le 39-21. Je ne sais pas lequel d'entre vous a envie de lui répondre. Je ne fais pas de sport depuis pas mal d'années, mais j'aimerais me remettre au running et j'aimerais des conseils pour un débutant comme moi. Jean-Baptiste, qu'est-ce qu'on peut lui conseiller à Anthony qui est dans le Finistère ?
Moi, ce que je peux lui conseiller, c'est peut-être se fixer d'abord un objectif, peut-être s'inscrire sur un 5 km, télécharger l'application Fréquence Running et puis...
Faire la démarche de s'inscrire.
La démarche de... Le fait de se fixer un objectif, vous allez faire les efforts, en fait, ensuite... ça va vous motiver, en fait, puisque vous allez devoir assumer le genre d'objectif. Donc déjà, c'est une source de motivation.
Il y va seul ou pas, Anthony, courir son 5 km? Ou est-ce que c'est mieux d'y aller
à deux?
Ouais,
ça peut être plus sympa d'être accompagné par quelqu'un qui court déjà dans son entourage, ouais.
Marie?
Oui, vous êtes de grands sportifs. Comment ça vous a aidé pour entreprendre et développer votre entreprise, ce mental de sportif?
Moi, personnellement, c'était plus... Ça venait à côté, en fait. C'était un moyen de... un défouloir, vraiment, se permettre de lâcher prise à la fin de grosses journées. Et c'est vrai que, voilà, et puis en se fixant des objectifs, les accomplir, je pense qu'après, on peut vite les transcrire dans la vie professionnelle. Voilà. Et aujourd'hui, moi, ça fait partie de mon cadre, mon mode de vie, quoi.
Maxime, on a parlé de vos t-shirts. Vous avez aussi, parce que c'était assez logique, finalement, sorti des chaussettes Made in France. Ouais. La suite, c'est quoi? C'est d'avoir l'équipement complet pour aller courir Made in France?
Exactement, c'est de poursuivre la collection, c'est-à-dire de proposer une panoplie complète de la tête aux pieds, c'est-à-dire du short, du legging, du débardeur. Et pourquoi pas même après, on peut aller plus loin dans l'after sport en proposant même du textile qu'on peut mettre après. Après le sport, après l'effort, donc ça serait plus du coton, etc. Pourquoi
c'est
pas
prévu
continuer.
C'est déjà prévu.
C'est en projet, ouais. On est en train de travailler notamment l'extension de gamme et puis la gamme lifestyle, justement, elle est dans un coin de notre tête.
Et est-ce que vous pensez peut-être adapter un autre sport et faire du Made in France et pour équiper d'autres sportifs que des gens qui courent?
Alors pour l'instant, on n'y a pas songé. C'est vrai qu'on a beaucoup à faire, notamment dans le running, mais aujourd'hui, on a beaucoup de clients aussi qui disent.
La demande, elle est surtout dans le running?
Alors voilà, on commence à avoir de la demande qui vont mettre par exemple à la salle de sport des clients qui vont le prendre pour faire du tennis. Donc on nous demande polo, on nous demande du. Donc voilà, on peut le mettre, c'est un maillot de sport. Alors certes, le nom il comprend coureur, mais aujourd'hui il peut être utilisé pour tous les sports.
On court dans la plupart des sports quand
Exactement.
Même.
Exactement.
Elisabeth, je voudrais qu'on termine avec les chaussures. Vous avez trouvé des baskets françaises, je suppose.
Oui, des baskets françaises spécialisées dans le confort du pied parce qu'on n'y pense pas forcément. Elle est surtout spécialisée dans les semelles de sport. Elle s'appelle Sidas et son credo, c'est de faire prendre conscience aux professionnels comme aux amateurs de l'importance de la semelle. On n'y pense pas forcément. Des semelles adaptées aux pieds pour éviter les blessures, les accidents et améliorer les performances. L'idée de départ, c'est une semelle sur laquelle le pied viendrait directement imprimer sa forme. Sidas.
Voilà, vous savez tout, je l'espère, ou presque, sur le running, grâce à Maxime Marchal de Coureur du Dimanche, Jean-Baptiste Marcovici, cofondateur de Fréquence Running, et Boris Pourreau, cofondateur de Sport Heroes et donc de Running Heroes. Merci à tous les trois d'être venus aujourd'hui sur Europe 1.
Il est 13h35.
Europe 1, Raphaël Duchemin.
Vous restez avec nous dans deux minutes. Si vous êtes au volant, ça va vous intéresser. L'entreprise qui va bien va vous parler, puisqu'il s'agit de Point S.
La France bouge, c'est tous les jours de 13h à 14h sur Europe 1, même l'été. Et on va s'intéresser maintenant à une entreprise qui va bien et que les automobilistes connaissent bien.
Oui, cette entreprise, effectivement, vous avez raison Anissa, on la connaît tous si on a une voiture. Elle est née en 1971 et c'est Point S. Bonjour Christophe Rollet.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, vous êtes le directeur général de Point S. Alors si mes comptes sont bons, elle a 47 ans aujourd'hui, cette entreprise. Et alors son histoire est assez étonnante parce qu'au départ, c'est une coopérative et ça l'est toujours.
Absolument. En 71, quand elle a été créée par 50 négociants en pneumatique, l'idée était de créer un groupement d'achat, mais surtout une image de marque pour le consommateur final. Et près de 50 ans plus tard, puisqu'on va fêter dans presque deux ans notre 50e anniversaire, ça reste une coopérative avec, par contre, une image de marque qui s'est fortement développée.
C'était assez novateur à l'époque de comme ça prendre des négociants, de les regrouper et d'aller d'abord faire un effort sur les prix, évidemment, mais aussi d'avoir finalement une vision commune d'un secteur.
Absolument. Il faut rappeler que c'est les années un peu d'après-guerre. On sort des années d'après-guerre. Le parc automobile augmente de façon importante et les besoins sont nécessaires aussi. Et puis le pneumatique, c'est le produit par excellence qui retient le véhicule à la route. Donc c'est 50 négociants en pneus ont eu l'idée de créer une marque et puis ils ont également la bonne idée de la créer sur un plan international pour que le nom Point S puisse se lire dans toutes les langues, dans tous les pays du monde où on est et où nous serons.
Point S, ça reste au départ une entreprise française. La plupart de votre activité se fait d'abord en France et puis petit à petit il y a cette fameuse internationalisation. L'essor, il est vraiment dans les années, fin des années 80 ?
Au début, c'est le démarrage 88, on se lance à l'international. Et puis l'essor réel est à partir de 2002, où on prend conscience qu'on est une marque, un nom, un savoir-faire également en France, qu'il faut qu'on déploie dans tous les pays où nous sommes aujourd'hui. Donc ça prend un essor important, puisqu'on est passé rapidement de 8 à 36 pays dans le monde à aujourd'hui où nous sommes.
3000 salariés aujourd'hui, un peu plus, et 548 points de vente, c'est
voilà,
ça ?
Voilà, en France absolument, dans les dom-tom également. C'est un maillage conséquent, mais pas suffisant. On recherche régulièrement des nouveaux points de vente dans des grandes agglomérations, des villes de province également, pour parfaire ce maillage, à la fois pour répondre aux attentes des automobilistes qui nous font confiance, et puis de répondre également aux professionnels, parce qu'on a une clientèle de professionnels, de l'artisan à des grandes flottes également, qui nous font confiance et nous confient leurs véhicules.
Vous voulez la même qualité partout, et alors moi ce qui m'a frappé, c'est que vous organisez, y compris dans vos propres centres, des visites mystères pour aller vérifier que tout est bien conforme à ce que vous attendez des services que vous proposez aux automobilistes.
Oui.
C'est important, justement, de se mettre dans la peau du consommateur.
C'est primordial, car on a une image de professionnel qui nous colle à la peau depuis notre origine, et c'est celle-ci qu'on tient principalement. On intervient sur un véhicule, donc il y a de la sécurité, il y a du confort également pour le consommateur. On se doit d'être performant, tant sur la formation de nos équipes, la qualité de notre matériel, mais aussi la qualité de service et d'accueil de nos clients.
Marie, la coach.
Alors, depuis que je sais qu'on va parler de .s, j'ai dans ma tête « pas de stress, il y a .s ».
Oui, le slogan, évidemment.
Je voulais savoir comment vous préparez pour la transition écologique. Donc, le bioéthanol, les voitures électriques, les matériaux éco-responsables pour les pneus, etc. Comment vous faites ?
Complètement. Alors, c'est vrai qu'on est dans une profession où le garage, entre guillemets,
c'est
pas forcément, voilà, c'est polluant, ça n'a pas une bonne image toujours auprès du consommateur. Donc, depuis une dizaine d'années, on a anticipé les choses sur déjà la récupération des déchets qui sortent des produits que l'on change, le pneumatique, la ferraille, les freins, etc., de nos prestations. Donc, on a une organisation, une filière normalisée qui permet à la fois de récupérer et d'éliminer tous les déchets que nous produisons en remplaçant les pneumatiques et le freinage. Et puis .s, qui est une société dynamique, se lance également sur les nouvelles technologies, sur les nouveaux modes de consommation écologique et économique, comme le bioéthanol dont vous venez de parler. On était la première enseigne de notre marché à se déployer sur ce nouveau style de carburant qui commence son essor en France, mais qui a de belles perspectives. Et aujourd'hui, près de la moitié de nos 550 centres en sont déjà équipés et équipent les véhicules de nos clients qui nous font confiance.
.s a reçu des distinctions, notamment par des magazines qui sont aimés et reconnus des consommateurs en 2018, en 2019. Ça veut dire qu'il y a un vrai lien de confiance qui est établi avec les Français, notamment ?
Oui, il y a une confiance, une fidélité de nos clients également, et un souci de la performance dans nos points de vente. Vous parliez de visite mystère, on suit de très près, vu qu'on a un réseau quand même assez important, 550 points de vente, c'est un maillage important, on se doit d'avoir un service de qualité, de propreté et d'accueil idéalement le même de partout où nous sommes.
Et alors on n'a pas parlé chiffres, mais c'est important de le dire aussi, aujourd'hui dans le capital, il n'y a que finalement les gens qui étaient là au départ.
Absolument. Vous citiez Raphaël, le système de coopérative qui est à notre origine. Bien près de 50 ans plus tard, on est toujours dans un même système de coopérative.
Ça vous apporte quoi ? Ça vous apporte cette confiance, justement ?
Il y a déjà une indépendance à la base, puisqu'on est maître de notre stratégie et de nos décisions. Parce que les adhérents du réseau, les chefs d'entreprise, on n'a pas de magasin propre, chaque point de vente est dirigé par un chef d'entreprise, ce qui fait aussi une de nos forces par rapport aux consommateurs également. Et chaque chef d'entreprise est actionnaire également de .s à aujourd'hui, ce qui nous laisse une vraie liberté d'action dans la stratégie en France et dans le monde que nous avons jusqu'alors déployé.
Et je précise que vous continuez à recruter, c'est important de le dire, une entreprise qui va bien et qui continue à employer et à embaucher en France. C.s, merci d'être venu nous en parler aujourd'hui, Christophe Rollet.
Merci.
Il est 13h44.
Europe 1, Raphaël Duchemin.
Vous avez peut-être un projet de construction, mais vous ne savez pas à qui le confier. Archibien s'occupe de tout. C'est la solution aujourd'hui sur Europe 1.
La France bouge, suite et fin. Vous avez peut-être un projet qui requiert l'aide d'un architecte. Eh bien, on a une start-up qui s'occupe de tout, et c'est archi bien, n'est-ce pas, Raphaël Duchemin ?
Vous avez peut-être un bien à construire, ou vous souhaitez relooker, je vais y arriver, une maison dans un pays éloigné. Il existe une solution, Elisabeth, elle s'appelle archi bien, et elle s'occupe de tout.
Bah oui, comment choisir le bon architecte quand on a un projet, et sans se ruiner ? Parce que c'est vrai que rien que de penser architecte, on se dit tout de suite que ça va
coûter cher.
Ça va coûter hyper cher, on va dépenser une fortune. archi bien. Le principe est simple. Trois architectes près de chez vous. C'est, en fait, c'est un test de
c'est
langage.
C'est communicatif, oui.
On n'est pas au courant. Trois architectes près de chez vous qui dessinent chacun votre projet. Tarif unique de 600 euros. Et vous allez ensuite choisir celui qui vous plaît le plus. Et l'architecte qui va le réaliser. Une fois que le client a fait sa demande sur le site d'Archibien, un message automatique est généré aux agences partenaires dans la région. Vous en avez 250 en France. Les trois premières qui répondent sont sélectionnées et elles ont 3 semaines pour répondre.
Bonjour Simon Jézéquel.
Bonjour, merci
de m'accueillir. On va avoir du mal aujourd'hui. Vous êtes le cofondateur d'Archibien et vous êtes architecte évidemment. Alors racontez-moi comment est né Archibien.
Alors, je suis effectivement architecte de formation, donc titulaire du diplôme d'archi. Et après un passage dans le journalisme spécialisé en archi, j'avais cette envie de mettre en lien architecte et particulier sous un nouveau format qui n'existait pas, à savoir donc la consultation d'architecte, le concours d'architecte en tant que tel. Donc, le format du public appliqué au privé. Trois architectes qui font un projet sur mesure pour le client, qui peut ainsi comparer sur des bases comparables et homogènes le meilleur projet et donc l'architecte avec qui avancer.
Mais alors comment ça se passe? On s'inscrit sur votre site et il faut, en fait c'est comme un concours, les premiers architectes qui répondent doivent présenter un projet
non,
dans
pas
les
du tout.
Semaines.
Alors il y a vraiment un accompagnement qui est hyper humain, c'est-à-dire qu'il y a la question du digital forcément, de l'innovation d'usage, etc. Mm-hmm. Mais on a en interne des chargés de projet qui prennent en main nos clients, les maîtres d'ouvrage, qui ont un projet de rénovation, de construction, d'aménagement, et qui vont chapeauter cette consultation pendant tout le temps de ce travail-là, qui dure donc 3-4 semaines en moyenne, et qui va, ce chargé de projet, sélectionner finement et humainement surtout les trois architectes les plus pertinents près de chez le client pour visiter les lieux, le rencontrer, affiner le cahier des charges que nous, chez Archibien, on a construit en amont avec le client et ainsi rendre ces fameux trois projets. Donc il y a une pertinence qui est vraiment, qui n'est pas celle d'un algorithme. Il y a vraiment de l'humain derrière.
Il y a de l'humain derrière. Ouais, en termes de prix, parce que c'est vrai que quand on pense architecte, on se dit qu'on va dépenser une fortune. Je crois qu'avec vous, ce sont des tarifs uniques, des forfaits.
Alors, des prix forfaitaires, vous parliez d'un premier prix qui
oui,
n'est pas
premier.
Celui-là.
Ah bah c'est pourtant ce que vous annonciez.
Qui est celui de plutôt 1500 euros pour le client particulier. Donc, c'est un prix forfaitaire qui ne dépend pas du type de projet ou du budget travaux alloué à ce projet.
Donc, pour 1500 euros, on peut avoir trois propositions de fait.
Oui, exactement. Ce qui revient finalement à trois fois en dessous des prix du marché, puisqu'une esquisse en direct, un projet sur mesure auprès d'une agence d'architecture, vaut environ 1500 euros. Ce qui est le prix normal pour 3 ou 4 jours de travail. Mais on a des accords annuels, cadres, avec tous nos architectes qui nous permettent d'avoir cette offre commerciale hyper intéressante pour le client.
Et ils se rémunèrent comment, les architectes? Au forfait, au pourcentage
Alors, les architectes, effectivement, travaillent pour 90% d'entre eux en France au pourcentage. Mais on négocie avec eux, on prénégocie en amont, pendant la consultation, les honoraires des trois archis. Donc on cadre, on cale les trois archis sur les mêmes zonaux pour que le client puisse choisir, non pas d'après un devis d'honoraire, mais bien d'après un
projet
d'architecture.
Son projet personnel.
Une optimisation des surfaces, des budgets, des réglementations en cours sur la parcelle, etc.
Marie ?
Alors j'ai regardé votre site, c'est vrai qu'il donne envie, hein, il y a des photos très belles, très claires, etc. Ouais. Et ça peut être aussi archi fin de prendre quelqu'un comme vous, parce que quand on veut construire une maison ou la rénover, faire une extension, c'est souvent le projet d'une vie. On a peur d'être déçu, d'avoir des déboires, surtout parfois dans le bâtiment. Et là vous proposez un jury d'experts pour accompagner les personnes qui souhaitent refaire c'est leur ça. Maison ou la construire. Ouais. Est-ce que vous avez beaucoup de demandes? Est-ce que vous avez des personnes dans votre jury qui sont orientées matériaux, éco-responsable, économie d'énergie, etc. Est-ce que c'est une demande aussi qui augmente,
Simon?
Alors, merci. C'est une demande qui augmente effectivement. Les experts qu'on peut positionner sur les rendus de consultation qui vont accompagner effectivement nos clients pendant la présentation des projets par les architectes in situ, sur les lieux du projet, vont être des experts pertinents par rapport au projet évidemment dont on parle. Donc sur un projet éco-responsable, typiquement on va positionner un expert qui connaît le sujet et dont il est expert de son domaine, mais on peut aussi positionner un agent immobilier si on est sur des questions de rentabilité locative ou d'investissement.
Vous prenez tous les projets où je peux vous proposer un studio de 18 mètres carrés, par exemple?
Oui, tout à fait. Alors, pas en dessous de 30-40 000 euros de budget de travaux. C'est un peu la limite basse qu'on s'est donnée. Pourquoi? C'est pas qu'on ne veut pas les traiter, c'est que ce n'est pas forcément pertinent de demander à trois archis de travailler sur des budgets qui ne permettraient pas de forcément optimiser les choses ou d'avoir une vraie plus-value pour le client. et donc pour le client, pas forcément pertinent de payer un service complémentaire.
Ça s'appelle Archibien, c'est la solution aujourd'hui. Merci à Marie d'avoir été notre coach.
Europe 1. Oui, Marie Éloi, fondatrice du réseau Bouge ta boîte. C'était le meilleur de la France Bouge avec Raphaël Duchemin et Elisabeth Assayac. On va retrouver demain de 13h à 14h la France Bouge qui va s'intéresser à la photo. Et vous aussi, si vous êtes accro à la photo, sachez que demain, il sera question des innovations made in France pour nos photos. C'était à l'occasion du 70e anniversaire de Polaroid.